Je suis heureux de vous retrouver, j'aime bien 14h30. Vous qui écoutez ce message sur Internet, on est heureux aussi de vous avoir. On va ouvrir ensemble notre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 3. On va reprendre quelque chose qu'on a commencé la semaine dernière. Un champion, une personne remarquable, extraordinaire. Le plus grand de ceux qui sont nés avant Christ. Son nom est Jean-Baptiste, le révolutionnaire. Une petite bande-annonce nous réexplique ce que l'on est en train de voir pendant ces 4 dimanches. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert, leur demanda-t-il. Un roseau agité çà et là par le vent. Mais qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, Jean-Baptiste, le révolutionnaire. La révolution du sens de ta vie. C'était la semaine dernière. La révolution d'un cœur transformé. C'est aujourd'hui. La révolution au prix de ta vie. Dimanche prochain. La révolution d'un royaume qui naît. C'est celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant toi et il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en parut aucun de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Quel homme de Dieu extraordinaire. Il n'a pas eu accès au Nouveau Testament, et c'était quand même un homme de Dieu formidable, c'est Jean-Baptiste, le révolutionnaire. Le révolutionnaire, on a vu, il a révolutionné le sens de la vie. Et il ne s'est pas arrêté là, il a voulu que le salut de Dieu passe dans les cœurs. Et aujourd'hui, on va voir la révolution dans ton cœur. Lorsque ton cœur est bouleversé, lorsque ton cœur change. Et j'aimerais te poser une question avec cette image d'un cœur avide pour Dieu. C'est quand la dernière fois où tu as senti un terrible besoin de parler, de connecter avec Dieu, comme cet homme qui est assis, qui est prosterné et que l'on voit, cet homme qui se met sur ses genoux, que ce soit devant un escalier, que ce soit dans ta chambre, devant ton lit, un jour où tu as dit « Seigneur, Dieu, je te cherche, je ne quitterai pas ce lieu avant que tu m'aies béni, avant que tu m'aies béni ». Avant de commencer cette série sur Jean-Baptiste, juste une petite anecdote personnelle, mais j'étais ici, j'étais en bas dans le canapé, et j'étais en train de dire « Seigneur, c'est quoi la nourriture pour le dimanche prochain ?» Et j'étais vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais en galère, parce que je voulais que ça soit quelque chose de neuf. J'avais rien de particulier, et le Seigneur m'a dit, va chercher ta Bible. Et j'ai commencé à marcher pour aller chercher ma Bible, mais j'ai marché, vous voyez, au début. Et c'est comme si Dieu m'a dit, oh, tu veux que je te parle ou pas? J'ai commencé à courir, j'ai monté l'escalier en courant, je suis allé chercher ma Bible en courant, je suis revenu en courant. Et là, j'ai ouvert, et là, vraiment, j'ai eu à cœur de vous parler de Jean-Baptiste. Je crois que quand vous avez vraiment faim et soif, ça doit se voir. Un cœur qui recherche Dieu, qui est passionné pour Dieu. Et avec le temps, on finit tous par se durcir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le jour où il devient dur, c'est le pire des fléaux. Changement de ton cœur. Premier point, la repentance que va prêcher Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 3, verset 3, voici ce qu'elle était la prédication très simple, très efficace de Jean-Baptiste. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Toi qui es là cet instant, qui écoutes ce message, est-ce que c'est ça que tu as dans ta Bible ou pas? Quelle est la version que vous avez? Vous avez peut-être une version différente. Pour indiquer quoi? Comme preuve, peut-être vous avez le mot repentance pour si vous êtes dans une version seconde. En fait, le mot en grec, on est bien d'accord, c'est un mot qui utilise la notion de changement intérieur. Pour indiquer qu'il y a une transformation qui descend au niveau de tes tripes, de ton cœur, et qui implique un changement de comportement concret par la suite. Mais cette révolution vient du cœur, vient du cœur. Je ne sais pas si vous êtes récent dans cette église, si vous écoutez que votre deuxième ou troisième message, mais pour la plupart d'entre vous, vous en avez déjà entendu des messages, on est d'accord? Et même certains vous ont touché dans le passé. Il y a des fois où on ressent personnellement la présence du Saint-Esprit plus fort. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas touché par tous les messages. Mais quand Dieu vous parle et que votre cœur est touché, que le mascara est abîmé, que les cheveux sont un peu moins peignés que d'habitude, parce que, et que le frère qui d'habitude garde complètement son calme, là, il est un peu ému, là, il s'avance peut-être à l'appel, on est au niveau de l'émotion. On est au niveau de l'émotion. Et Jean-Baptiste, quand il prêche, il dit « Changez de vie, donc laissez votre cœur être transformé et portez les fruits dans votre comportement, et c'est le grand B, changement de ton comportement, changement de tes attitudes. » Parce qu'on reste trop souvent au niveau de l'émotion des fois. On est là à l'appel, on dit « Seigneur, amen, oui, je veux que tu sois le roi de ma vie. » Mais concrètement, il va y avoir des changements. Reste pas au niveau de surface, reste pas au niveau de l'émotion. Après le dimanche, et que tu sois touché, passe jusqu'au changement de ton comportement. Il y a des choses par rapport à la jalousie que tu vas changer, il y a des choses par rapport à ta colère, des choses par rapport à tes yeux que tu vas changer. Et peut-être par rapport à ce que tu écoutes et par rapport aux phrases que tu dis qui ne sont pas tolérables de la part d'un enfant de Dieu. Ça va changer. Ça va changer. Quand le Saint-Esprit rentre dans un cœur, ça change. Ça change. Et si tu restes au niveau de l'émotion, c'est quelque chose de passager. Une petite larme à un appel un jour, il y en a plein hein, qui sont un jour rentrés dans une église évangélique, qui sont restés au niveau de l'émotion et qui ne sont jamais allés jusqu'à prendre une décision. C'est ça le baptême. C'est quoi le baptême? C'est une décision. C'est assumer publiquement. Alors je me pose le problème, parce que quand je vois ce qui se passe, je parle au niveau simplement des églises évangéliques. Vous savez que Il y a des traditions différentes. Il y a certaines églises évangéliques, dès que vous dites, confessez publiquement, je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, que vous avez suivi la prière que le pasteur vous a fait répéter, ok, tu prends ton baptême ce soir? Oui, d'accord. Vous êtes baptisé le jour même. Il y a d'autres églises qui vous demandent, oh là là, alors ça c'est des églises des fois un peu plus structurées, organisées, il faut que tu fasses des cours de baptême, il faut que tu fasses ça, puis après on va voir s'il y a des changements de vie, tu vas avoir deux entretiens pastoraux et à la fin on voit si tu prends ton baptême ou pas. Lequel est biblique? Les deux sont bibliques. Les deux sont bibliques parce que le jour de la Pentecôte, il est dit que quand Pierre a prêché devant tout le monde, il leur a dit « Repentez-vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, soyez remplis du Saint-Esprit. » Et le jour même, 3000 personnes font plouf. Ils ajoutaient à l'église chaque jour des âmes qui se faisaient baptiser, chaque jour. J'avais Madame Mango ce matin. Vous connaissez la sœur Mango? Oh, si vous ne connaissez pas la sœur Mango, vous avez manqué quelque chose. Héloïse Mango est une femme de Dieu. Et quand vous connaîtrez le caractère, vous comprendrez pourquoi son baptême, c'est pas le pasteur qui l'a choisi, c'est vraiment elle. Elle s'est incrustée dans une file de baptême à la piscine municipale à Porte Dorée et elle a fait plouf sans avoir eu l'autorisation. Le pasteur est arrivé en face, il dit « qui toi ? J'aime Jésus, je plonge. » Ok, elle était plongée. Héloïse est passée entre les mailles du filet, comme ça. Pourquoi ? Parce que pour elle, c'était clair, c'était net. Elle venait d'entendre le matin, elle faisait plouf l'après-midi. Et ça correspond assez bien à ce que la Bible dit. Mais ça correspond bien surtout à ce que Héloïse vivait dans son cœur. C'est que le matin, elle avait décidé, elle avait de l'émotion, mais c'était, quand vous connaissez Héloïse, vous savez que ce n'est pas que de l'émotion, c'était une décision derrière, c'est une femme de caractère, elle assumait, elle y allait. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pourquoi ce n'est pas généralisable. Le jour de acte 2, acte 3 et tout cela, on est une époque de persécution de l'Église dans laquelle Jésus-Christ de Nazareth, pour avoir osé dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi », avait été mis à mort. Plus que ça, il avait été battu en public, craché, injurié, enfoncé une couronne d'épines dans son front. Et ça s'était vu de tous. Alors, quelques jours plus tard, parce que Pentecôte, c'est quelques semaines seulement plus tard, si jamais vous assumez publiquement que vous prenez votre baptême, vous vous mouillez plus que seulement physiquement. Vous vous mouillez parce que demain, vous n'êtes pas sûr de vous réveiller. Parce que dans la nuit, les gardes d'Hérode qui ont crucifié Jésus, les mêmes soldats qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion sont capables de vous embarquer. D'ailleurs, il y a un certain apôtre, Jacques, qui va y passer et qui va être décapité en prison. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le baptême, ce n'était pas un baptême d'émotion, c'était un baptême « je ne me réveille pas sur demain ». Alors c'est pour ça que oui, j'aime aussi la deuxième façon, c'est une façon qui est assez proche de Jean-Baptiste, c'est-à-dire prouver les changements de vie. Plus le climat autour est calme, plus c'est facile de se déclarer comme chrétien. Et si c'est facile de se déclarer comme chrétien, c'est important que la personne puisse tester s'il y a bien des changements de comportement. Des changements de comportement qui passent du cœur jusque dans les faits, jusque dans les actes. Les foules, verset 10, demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ? N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé, leur répondit-il. » Les soldats romains, ils abusaient énormément. Hein. Mais quand ils se convertissaient, ils posaient la question, « Que devons-nous faire ? N'extorquez pas d'argent à personne, ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » D'ailleurs, entre nous soit dit, le solde, en gros la paye des soldats romains, elle n'était pas très élevée. Parce qu'on considérait qu'ils avaient beaucoup d'avantages en nature lorsqu'ils allaient chez les paysans, etc. Et qui complétaient très souvent en extorquant des biens. Donc, ce que Jean-Baptiste leur dit, c'est « Soyez impeccable dans votre attitude. Soyez impeccable. » Est-ce que vous avez changé de vie ? Est-ce que vous avez changé de vie ? Donnez une chemise si vous en avez deux. Contentez-vous de ce que vous avez. Ainsi, vous prouverez que votre cœur a été changé. Et comment ça se fait que c'est aussi dur alors de donner tes 2 euros au SDF à la sortie du métro ? Parce que des fois, notre cœur, on n'a pas intégré la générosité de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, il est parlé de Jean-Baptiste. C'est Malachie qui dit « Voici celui dont il est écrit, il aplanira les chemins du Seigneur. » C'est Malachie 3. Malachie 3, verset 1er, « Eh bien, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. » On est en train de parler de Jean-Baptiste. Même chapitre au verset 6 dit « Moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. À cause de cela, descendant de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminé. Mais depuis le temps de vos ancêtres, vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Mais vous dites, comment devons-nous revenir ? Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant vous me volez, puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes, vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans la totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vives dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez si, bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore, il ne détruira plus les produits de vos terres, vos vignes, etc. C'est ça le changement de cœur. Le changement de cœur, ça descend jusque dans le portefeuille. Il n'y a aucun amen, mais je m'en contenterai. Mais quand le Seigneur rentre dans ton cœur, ton portefeuille s'ouvre. Je ne suis pas en train de parler de la religion, là. Parce que la religion, elle va essayer de codifier cela. Et c'est un vrai piège, d'ailleurs, auquel va devoir faire face Jean-Baptiste. C'est le deuxième point, le piège de la religiosité. Parce qu'à ce moment-là, ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher n'est pas du tout populaire théoriquement, mais il y a une telle présence de Dieu, c'est tellement beau ce qu'il dit. C'est pas facile, hein ? C'est un homme incroyable, Jean-Baptiste. Il prêche quelque chose, il leur dit « Repentez-vous !» Et au final, tout le monde vient à lui. L'évangile de Luc nous dit que de plus en plus de personnes, tous venaient se faire baptiser. Et Matthieu 3, prenons Matthieu 3. Regardez un réveil, le réveil est en cours, Matthieu 3. Je rêve de ça. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière. Ça, c'est au verset 5. Des contrées riveraines du Jourdain, tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leurs péchés. C'était chaud, hein ? C'est-à-dire qu'ils arrivaient en disant « J'ai trompé ma femme. Quoi ? J'ai trompé ma femme. Et je demande pardon à Dieu. C'est vrai, tu reconnais tes péchés. Vas-y. » Un autre qui arrivait derrière, je pique tout le temps des colères. J'ai encore fait ça, 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 ça. Tu changes de cœur ? Oui, je veux changer. Vas-y, plonge. C'était ça le baptême de Jean. C'est un baptême d'adulte qui réfléchit. Hein. On est passé de l'émotion à la décision. Mais, les religieux. Un pharisien, ça localise un réveil. Vous savez qu'il y a parmi nous, même les évangéliques, hein, on a un petit côté religieux. Dès qu'il y a un réveil quelque part, on a envie d'aller voir et en faire partie, même si on a une mentalité de religieux. On y va, au contraire, on y va vite. Et les pharisiens ont senti le vent, ils se sont dit « Ouh, 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 il y a un truc là-bas qui se passe. On va aller se faire baptiser par Jean. » Pourquoi la religion veut venir capter comme ça le réveil? Qu'est-ce que veut faire la religion? La religion, c'est une grande, grande différence. Le moteur de la religion n'est pas le cœur. Le moteur de la religion, c'est l'apparence. C'est le culte de l'apparence. Le culte de l'extérieur. Et ça, c'est terrible. Et il y a une captation par la religion de ce que sont les conséquences du réveil. Écoutez-moi bien. Quand le salut rentre dans un cœur, il y a des changements extérieurs qui sont provoqués par l'intérieur. Tout le monde a compris ça ? La religion, on va changer l'extérieur, comme ça, on évitera de se remettre en cause à l'intérieur. La religion, c'est un raccourci pour aller vers le résultat, sans avoir le changement de cœur. Je vous donne un exemple terrible. Il y a eu ça à Azusa Street, aux États-Unis, Los Angeles, il y a eu un réveil extraordinaire au début des années 1900. Vous n'êtes pas les premiers évangéliques sur la Terre, on est d'accord, hein ? Il y en a eu avant vous qui ont voulu rencontrer Dieu, qui ont voulu vivre des réveils, avant moi, avant vous. Et il y a eu un moment où il fallait être, en 1903, il valait mieux être à Azusa Street parce que c'est là que ça allait exploser et que le feu était allumé ce jour-là. Ils allaient à Azusa Street, il y avait des miracles, il y avait des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, il y avait une manifestation de l'esprit extraordinaire. À toutes les réunions, c'était bouillant. Il y avait des prostituées qui quittaient le trottoir et qui venaient à l'église, qui donnaient leur cœur au Seigneur. Il y avait des banquiers qui demandaient pardon. Il y avait des avocats qui arrêtaient de truander et qui se convertissaient. Il y avait des SDF qui arrêtaient l'alcool et qui allaient à Azusa Street. Parce que le cœur était changé, le comportement changeait. Sauf que si vous suivez un petit peu ce qui s'est passé, le réveil, 1904, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aux alentours de 1915, ça avait complètement changé. On avait gardé quoi ? On avait gardé la religion. Donc du coup, comme il y avait eu des femmes de mauvaise vie qui étaient venues et dont la robe s'était allongée, on a commencé à dire dans les églises évangéliques « Femme égale jupe longue ». Parce que ça, c'est la sainteté. On a commencé à dire « Alcool ». Alcool interdit. Parce qu'on va avoir directement le résultat qu'il y avait eu après le désert, après le réveil. Donc on va ramener, comme Jean-Baptiste, mais sans passer par la prédication de Jean-Baptiste, on va essayer d'avoir les changements, les résultats. Et ils ont commencé à dire, regardez, l'alcool interdit, c'est la grande période de la prohibition, et les chrétiens étaient à fond derrière ça. À fond derrière ça. Parce qu'on voulait avoir les résultats extérieurs, sans avoir le changement intérieur. Et on a fait des églises de plus en plus intégristes. Et quand on fait ça, mes amis, on est, pardonnez-moi l'expression, on est des petits musulmans évangéliques. On est un peuple de la loi, on est des petits juifs intégristes évangéliques. Parce que la religion veut l'extérieur sans changer l'intérieur. Et Jean-Baptiste leur dit, beaucoup de pharisiens, sadducéens venaient pour se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère. Il n'a pas peur le Jean-Baptiste. Hein, espèce de vipère. Vous savez ce que c'est une vipère? C'est quelqu'un qui s'infiltre, qui profite du lieu parce que c'est chaud, et qui pique. Espèce de vipère, qui vous a appris, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Vous savez que de cet écran, de cette climatisation, de ce poteau qu'il y a là, de cette chaise sur laquelle tu es assis, Dieu peut faire une super chrétienne. Dieu peut transformer une chose en une personne. Alors tu me dis, oui, mais pasteur, moi je suis bien parce que ma mère est chrétienne, parce que... tant mieux pour elle. Mais ça ne fait pas toi un chrétien. Hein. Oui, mais pasteur, moi je suis quand même fait l'école du dimanche pendant 10 ans. Hein, je connais tout par cœur. Ah bon ? Est-ce que ton cœur a été transformé ? Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus ? Parce que sinon, tu n'as rien de plus qu'un petit pharisien, un petit musulman évangélique, un petit pharisien évangélique. Tu vas avoir les résultats. Pasteur, je dis pas de gros mots. Pasteur, je suis clean. Je suis bien, moi. Moi, j'ai pas de piercing, pasteur. Ah, d'accord. Ok. Mais je préfère que tu aies un piercing et que tu aies un cœur un peu moins sale. Maintenant, ce que Dieu va juger, c'est ton cœur. Et Jean-Baptiste va les avoir parce qu'il va leur dire, montrez que votre cœur a changé. Parce qu'un pharisien, vous voyez, regardez, ils existaient déjà. Hein, enfin, celui avant qui prie, montrez-moi celui qui prie là, le A là. L'apparence, le culte de l'apparence.
Alléluia, gloire à Dieu, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin.
Des belles prières. Lisez Matthieu. On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 6. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues, dans les églises évangéliques et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. J'ai rajouté un mot, hein, église évangélique. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment faire de leurs prières debout, dans les synagogues, dans les églises, à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, ils ont déjà leur récompense. Ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra. La Bible te prêche quelque chose d'incroyable. C'est Jean-Baptiste, il est venu pour aplanir le chemin du Seigneur. C'est le seul, écoutez bien ça, c'est le seul, c'est pour ça que Jésus va dire c'est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme à avoir compris ça, c'est le premier à avoir compris ça. Jean-Baptiste est le premier parce qu'il va dire aplanissez les chemins du Seigneur, arrêtez de vous tromper, c'est le cœur qui compte et non pas la religion. C'est celui qui va le comprendre le mieux. Vous savez, ma famille a été beaucoup déchiré par des aspects de religion. Ma tante, et c'était il n'y a pas longtemps finalement, hein, ma tante, quand elle était ado, était au lycée, elle a voulu prendre son baptême. Et donc, elle a eu un entretien avec le pasteur. Et ce qu'elle a, la question clé comme condition de son baptême que lui a posé le pasteur, c'est: est-ce que tu promets de ne plus mettre de pantalon au lycée après ton baptême? Pour les jeunes, ça vous fait peut-être halluciner, mais il y a plein de frères ou de sœurs ici qui ont peut-être vécu ça. Ouais. C'est vrai, c'était ça. C'était une condition. Et cette jeune-là, elle est partie. C'était pas bien de partir, mais c'était pas bien de poser cette question-là non plus. Parce que le pasteur là était complètement focalisé sur un détail extérieur, alors que la vraie question c'est: est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux que ton cœur soit passionné pour Dieu? Est-ce que tu es accroché à Jésus dans les bons, les mauvais jours? Parce que si ton cœur n'est pas transformé, tout le reste, on s'en moque. Et je vais même dire plus, la religion va juger vraiment les choses extérieures, parce que c'est plus le cœur, c'est le regard qui compte. D'ailleurs, dans Matthieu, juste le chapitre d'avant, Jésus, il est carré. Hein. Il dit, je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre ce frère, son frère, sera traduit en justice. Accrochez la ceinture là. Mettez la ceinture sous votre siège là. Ça va monter encore. Regardez ce que ça veut dire un cœur transformé. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal de Dieu, hein, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Il y avait un micro dans la voiture qui allait à l'église. Il a entendu comment tu parlais aux autres dans la voiture.
Non mais t'es malade ou quoi? T'es fou!
Tu sais que ça, ça passe pas auprès de Dieu.
Un grand, grand silence.
La tolérance de Dieu, elle est infiniment petite, hein? Dieu considère que ça... Alors, vous voyez, je ne sais pas sur le piercing si ça vaut le feu de l'enfer. Par contre, je sais que s'énerver contre quelqu'un dans la voiture, c'est le feu de l'enfer. Donc, les hommes vont codifier plein de règles, mais je vois que ça, déjà, c'est la GN. Donc, ça devrait nous faire réfléchir. Parce qu'un cœur transformé, c'est à l'intérieur, hein. Si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Oh là 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 !
C'est ça que Jean-Baptiste a commencé à travailler. Il a dit, j'en ai marre du piège de la religion qui va transformer l'extérieur sans transformer le cœur. Personne ne peut voir que tu es en train de convoiter cette femme. Eh bien, Dieu le voit dans ton cœur. Et tu seras jugé en fonction de ton cœur. De ton cœur. Jean-Baptiste a résisté au piège de la religion. Mais il y a un deuxième piège. Vous savez, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez du succès? On est dans Luc, cette fois-ci, l'avant-dernier texte. On est dans Luc 3, verset 15. Luc 3, verset 15. Il se peut que même avec un discours comme ça, le prédicateur qui est Jean-Baptiste connaisse un succès fou. Il a connu un succès fou, puisque Luc 3, 15 nous dit « Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. » Oh lolo. J'ai entendu un prédicateur, mais c'est un truc magnifique. Moi, Jean, je te suivrai mais jusqu'au bout du monde. Pour moi, t'es le meilleur prédicateur. J'écoute que tes CD, j'écoute que toi. Mais attention, tu ferais mieux d'écouter Jésus, hein. Et les gens sont en train de lui savonner la planche pour le deuxième piège. Il a évité le piège de la religion, mais le deuxième piège, c'est le piège de l'orgueil et du moi. Moi, Jean-Baptiste, j'ai provoqué un réveil qui a aplani le chemin du Seigneur. Ben, méfie-toi de ne pas tout mettre par terre par ton orgueil. Quand je regarde Élie, quand je regarde Élisée, vous voyez, Élie était un grand homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a raté comme chose pourtant? Qu'est-ce qu'il a raté comme chose? Quand je vois Élisée qui a fait carboniser des enfants parce qu'il lui avait dit « monte chauve », lorsque je vois David qui, alors qu'il avait des femmes, certainement déjà des femmes, qu'il avait choisi des femmes magnifiques, il allait prendre celle que le pauvre Uri alors qu'il n'en avait qu'une. Vous voyez, ça vient de la saleté du cœur, hein. Ça vient de la saleté du cœur. Il a demandé pardon après, d'ailleurs. Il a dit « Seigneur, donne-moi un cœur pur ». C'est ce que David a dit. Mais Jean-Baptiste, il est incroyable. Parce que non seulement il ne rentre pas dans la religiosité, mais en plus, il n'est pas rentré dans le piège de l'orgueil. Parce que là, ils sont en train de lui tendre une peau de banane. Ils sont en train de lui savonner la planche, lui envoyer des emails d'admiration. « T'es le meilleur pasteur du monde, t'es l'évangéliste que je suivrai partout en croisade, etc. » Ne suivez jamais un pasteur. Ou du moins que votre foi ne dépend absolument pas que d'un pasteur. Parce que si ce pasteur tombe en adultère, vous faites quoi? Si votre foi est basée sur un homme, vous mettez sur ses épaules une responsabilité que Dieu ne veut pas que vous mettiez. Et vous mettez votre confiance en un homme. La Bible dit « maudit l'homme qui se confie en l'homme ». C'est bien d'avoir un pasteur qu'on aime, d'accord? Je ne dis pas d'être méchant non plus, de m'envoyer des mails affreux, mais que votre foi dépendent de votre relation avec Jésus, et que même si un jour à Créteil, ça n'allait pas bien, que votre foi, elle, s'accroche à Dieu, d'accord ? Jean-Baptiste, quel homme de Dieu, t'as vu le piège, et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit, eh ben, il répondit, moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir, il est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de dénouer les lanières de ses Nike, de ses sandales. C'est trop beau pour moi, cet homme-là. Dernier point. Il a résisté à l'orgueil, le piège de l'orgueil. C'est dommage, hein, y a plein de télévangélistes qui rentrent là-dedans. Hein. À la télé, vous en voyez des fois. Au début, c'est bien, les conférences. Oh là là, c'est bien. Tant que tu étais petit à tes yeux. Puis un jour, avec le succès, les foules, ton nom qui devient partout un grand nom. Protège-moi. Seigneur, moi, je n'ai pas trop de risques. Je ne suis pas un grand comme eux, mais si un jour quelqu'un me savonnait la planche, Seigneur, donne-moi de m'arrêter avant. Vous voyez ce que ça veut dire ? Eh bien, toi, dans ta vie, c'est pareil. Hein. Dans ta vie, c'est pareil. Parce que tu es le champion dans ta famille et que tout le monde compte sur toi, eh bien, dis-leur bien de s'accrocher à Jésus et pas à toi. Hein. Parce que si c'est toi, la chanteuse, là, sur la scène, prie pour que Dieu te donne une humilité qui va avec cette scène. Parce que sinon, tu es en grand danger. Et Jean-Baptiste, il dit, ah là 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 là, me louez pas moi. C'est lui. C'est lui. Et c'est le dernier texte qu'on lit dans Jean, et puis après je vous laisse. Dans Jean, regardez quel homme de Dieu. Et voici le témoignage de Jean, c'est au verset 19. Lorsque les autorités juives, Jean 1, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 19, lui envoyèrent de Jérusalem une délégation. Attention, il y a même une ambassade qui arrive. De prêtres et de lévites pour lui demander, qui es-tu ? Il dit clairement la vérité sans se dérober, il leur déclara ouvertement, je ne suis pas le Messie. Mais alors, continuèrent-ils, es-tu Élie ? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, mais qui es-tu ? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi ? Répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés du parti des pharisiens continuèrent à l'interroger, si tu n'es pas le Messie ni le prophète, mais pourquoi donc baptises-tu ? Eh bien moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Et il a refusé de prendre la gloire jusqu'au jour où, au verset 29, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais à un homme, « Viens après moi, il m'a précédé car il existait avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme-là est le Fils de Dieu. Et c'est extraordinaire, ça. Parce que quand Jean prend cette position, il est en train de dire, je veux que vous le suiviez, lui, Jésus. Eh, vous comprenez pas, il n'avait pas le Nouveau Testament, il n'avait pas vu les miracles de Jésus, il n'avait pas vu Jésus mourir à la croix pour les péchés des hommes, il n'avait pas tout ce qu'on a aussi aujourd'hui pour aimer Jésus, il avait trois fois rien. Jésus n'était pas encore révélé comme aujourd'hui. Et déjà, il est en train de dire, je veux que lui grandisse et que moi, je diminue. Et c'est pour ça qu'il se rappelait le plus grand des hommes nés d'une femme. Parce que de tous ceux qui ont connu la loi, Jean-Baptiste a compris que la loi, c'était un changement de cœur et qu'il fallait éviter le piège de la religiosité et qu'il fallait éviter le piège de l'orgueil. Et il a dit, je veux la réussite de l'autre, une réussite supérieure pour l'autre. Et t'en es là, toi ? T'en es là dans une réussite supérieure pour l'autre ? Oh, c'est dur, ça. Oh, je sais ce qui se passe, c'est que si l'autre est a des difficultés, c'est toujours facile de lui donner. Vous voyez la première partie, s'il manque de quelque chose, je lui donne. Bon, mettons, allez, vous êtes bon en maths, vous avez 14 de moyenne. Ah, vous voulez que ton copain qui est à côté, il ait au moins 10, quoi. Alors là, on est tous d'accord avec ça, on va l'aider pour qu'il ait 10. Sauf que si c'est toi qui as 7 de moyenne, que tu as travaillé comme un fou et que Dieu donne 14 à l'autre qui ne mérite pas, est-ce que tu te réjouis? Si toi qui étais fidèle dans ton église depuis des années, tu n'as eu aucun remerciement, tu n'as pas été reconnu pour ton travail, et qu'il y a quelqu'un qui arrive hop, et qui grille la politesse à tout le monde et qui passe devant, est-ce que tu te réjouis ou pas? C'est très dur de se réjouir pour quelqu'un qui réussit mieux que nous. C'est très très dur. Et Jean va dire, il viendra après moi, il viendra, oh c'est facile de dire dans le futur, le jour de votre mariage, tous les hommes sont prêts à tout faire pour leur femme, on est d'accord? Le jour de mon mariage, je suis prêt à promettre tout. Je suis prêt à dire, je te suivrai Nathalie jusqu'au bout du monde. Ce sera mon amour et ma priorité tous les jours de ma vie. Quand il faut débarrasser la table, c'est moins vrai. Je le confesse humblement, mon cœur n'est pas encore totalement changé. C'est dur, hein, de dire non jusqu'au bout. Je ferai passer le bonheur de l'autre avant mon bonheur à moi. Je ferai passer le bonheur de mon conjoint avant mon bonheur personnel. Ah ouais, mais attends, il va m'exploiter ou quoi? Non, commence pas à raisonner comme ça. Seigneur, j'ai choisi d'avoir un cœur transformé. Est-ce que Jésus a été exploité par ses disciples lorsqu'il a lavé les pieds crades de tous? Quelque part, oui. Mais il l'a fait quand même. Parce qu'il n'a pas peur de donner, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et Jean-Baptiste est le seul que je vois de l'Ancien Testament, parce que c'est un prophète de l'Ancien Testament, quelque part Jean-Baptiste, c'est le seul qui résiste autant à la religion que à l'orgueil et qui garde jusqu'au bout l'idée de que l'autre grandisse. Et Jésus est émerveillé devant ça. D'ailleurs, quelle va être la récompense de Jean-Baptiste pour ça? Quelle va être la récompense? Alors, c'est la conclusion. Accrochez-vous, hein. Gardez bien la ceinture fixée. Si vous l'aviez mise tout à l'heure, c'était une bonne idée. Parce qu'on va voir ce qui va se passer au verset 35. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il est encore en train de donner la gloire. Aux yeux des hommes, un homme politique dirait « C'est le plus bête du monde ». Il est dans son moment, dans ce moment à lui. En anglais, on dirait momentum. C'est le top. Période de gloire, période d'efficacité où tout le monde l'écoute. Il a plein de disciples. Il fait ça le comble à chaque fois. Quand il fait un concert de louange, il n'y a que du Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ! Jean-Baptiste ! Les baptêmes, tout, 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 tout. Il voit Jésus, il dit, allez, c'est lui l'agneau. Et bien les autres, ils écoutent. Hein. Verset 37. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre. Oh les vaches! Oh les vaches! Oh les vaches! Ils ont lâché Jean comme ça. Et Jean a couru derrière en disant, hé, mais chérie, attendez, je suis pas trop sûr que ça soit vraiment l'agneau de Dieu! Non, jusqu'au bout. Jean est resté fidèle en sa foi. Et il a dit, s'il faut que je perde mes disciples, allez vers lui. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le plus grand de tous les hommes et d'une femme. Parce que pour moi, franchement, qu'est-ce que ça doit être dur. Imaginez l'église qui se vide pour aller dans l'autre église d'à côté et le pasteur qui dit, Seigneur, merci, on n'est plus que deux pelés et trois tondus. Mais merci, parce que l'autre église est meilleure. Amen! Et là, il n'y a que deux qui répondent « Amen !» Et ils disent d'ailleurs « Nous, on va peut-être partir aussi. » Et c'est très dur. C'est très, très dur. Vous êtes la seule qui est fidèle à Dieu dans votre service. Vos copines, tout ça, qui avaient des langues insupportables. Tout le monde a été promu. Tout le monde sauf vous. Amen! Je l'ai fait pour vous, vous auriez dû le faire. Que Jésus soit révélé, le plus grand des hommes et d'une femme, avant la connaissance de la grâce, c'était Jean-Baptiste. Parce que ni Élie, ni Moïse, ni David, ni Jérémie, ni Daniel, ni Osée, ni Joël, ni Amos, ni Abdias, ni Jonas, ni Maïché, ni Nahum, ni Habakkuk, ni Sophonie, ni Agé, ni Zacharie, ni Malachie n'avaient réussi ce que Jean a réussi, c'est-à-dire diminuer au point que Jésus puisse être glorifié dans sa vie. On va fermer les yeux ensemble. Ah, tu veux une révolution ? Hein, c'est pas dans l'apparence. La révolution, c'est dans ton cœur que Dieu veut la mettre. Il veut que ton cœur change. Ah, c'est une révolution. Tu gagneras rien d'ailleurs. C'est pour ça que tu veux pas la faire. Tu gagneras rien parce que c'est pas une religion. La religion va essayer de te faire prendre un impôt sur ce que Dieu te donne. Que tu y gagnes un petit peu, que les gens puissent dire ah, elle est respectable. Ah, quelle femme de Dieu. Ah, quel homme de Dieu. Mais c'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu attend que ton cœur soit entier pour lui. Vrai, vrai, vrai. Que tu aies la gloire ou pas, que tu connaisses un temps de difficulté et que personne t'appelle à l'hôpital, toi tu restes fidèle à Dieu, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui a été révolutionné et que tu as fait cet engagement du baptême et aujourd'hui c'est à refaire, tu le referais, non ? Alors dans ce cas-là, je peux te dire que de tous les hommes nés d'une femme, il n'en est pas de plus grand que quelqu'un comme Jean-Baptiste. En cet instant, et toi qui écoutes ce message, je voudrais te demander de fermer les yeux et de regarder dans ton cœur qu'est-ce qui fait partie de l'apparence, qu'est-ce qui fait partie de ton cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui, en cet instant, dit « Mon cœur, il est vraiment dur ». Je viens à l'église par habitude, j'écoute ce message parce qu'il faut. Dieu dit, je voudrais retrouver le chemin de ton cœur. Je voudrais retrouver cet amour, ce feu que je voyais en toi là. L'amour de Dieu n'a pas changé. Hein. Dieu est prêt à donner une chance à n'importe qui. Que tu sois un SDF, que tu sois un banquier, un avocat, cadre dans l'hôpital dans lequel tu travailles, que tu sois une maîtresse avec les enfants. Dieu t'aime énormément, énormément. Qu'aujourd'hui tu sois en galère par rapport à ton emploi et que tu te dévalorises. Tout ça, c'est rien. Dieu regarde ton cœur. Mais fais pas semblant.
Le chant terminé, le rideau retombe, je vois simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur.
Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?
Je reviens au cœur de la louange.
Centré sur Jésus.
Centré sur toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centré sur toi, Jésus.
One éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit.
Que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses.
tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus.
Seigneur, je te prie que tu puisses faire le tri dans nos cœurs maintenant. Seigneur, je veux pas avoir une religion en cet instant. Je veux être vrai devant toi. Je veux préparer mon éternité, pas sur les bases d'une église, sur les bases de ma relation avec toi, Seigneur. Jésus. À la croix, Jésus, alors qu'il est en face de ses amis, de l'apôtre Jean, qui ne l'est pas encore d'ailleurs, c'est au tout début. Sa mère, il y a cette femme à côté d'elle, il y a Marie, l'autre Marie, et Jésus prie du vinaigre et puis il dit « Tout est accompli, tout est accompli, la loi est accomplie. » Lui qui disait quelque temps avant « Je ne suis pas venu pour changer la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Tout est accompli. T'as aimé jusqu'au bout, il t'a aimé par amour. Et cet instant, alors que les personnes désignées pour la Sainte Cène, hommes ou femmes, viennent et préparent la Sainte Cène, je voudrais t'inviter à laisser ton cœur être touché par Dieu, par l'agneau de Dieu, comme Jean disait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qui ôte ton péché à toi, tu mets ton prénom. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de ton prénom. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis, Seigneur.